Vous l'êtes. Mémoire d'un continent. Identité et territoire en Éthiopie. Elikia Mbokolo. On évoque très souvent le caractère unique de l'Éthiopie et il faut dire que l'Éthiopie a plusieurs critères qui peuvent permettre de parler de cette unicité. C'est avec l'Égypte, le pays d'Afrique qui peut se réclamer de l'antiquité la plus ancienne. C'est aussi le seul pays, car le Libéria était au fond une colonie de Noirs américains, c'est le seul pays qui n'a pas à véritablement parler, connu de coupure coloniale et qui peut même se vanter depuis les années 20 d'avoir siégé parmi les grands de ce monde, d'abord à la Société des Nations, puis à l'ONU, dont elle est l'un des membres fondateurs. Et c'est enfin un pays, si on regarde l'histoire relativement récente de l'Éthiopie, qui a connu des péripéties assez remarquables. D'abord, celle qui correspond à Ménélique II, que l'on connaît comme le grand résistant, mais qui a été aussi un grand conquérant et même un conquérant redoutable. Ensuite, Haïlé Sélassié, dont les démêlés avec l'Italie fasciste et avec l'ONU et avec les grandes puissances ont occupé toute l'histoire des années 30 et des années 40. Et finalement, peut-être la révolution politique des années 70, puisque parmi tous les marxismes que le continent africain a connus, la révolution marxiste de l'Éthiopie a été, là on peut dire, véritablement une révolution avec tout ce qu'il faut, terreur, contre-révolution, etc. Évidemment, tout au long de cette histoire, des identités se sont formées, identité religieuse, identité linguistique, identité ethnique, et cet état très très complexe est la spécialité d'un historien, d'un géographe, d'un géopoliticien, Alain Gascon, qui est notre invité aujourd'hui. Alain Gascon, vous avez une liste de publications interminables sur l'histoire de l'Éthiopie.
N'exagérez.
Des articles nombreux et importants, un grand livre, La Grande Éthiopie, une utopie africaine, et récemment vous avez publié cet autre grand livre qui est à la fois une étude de la géographie de ce pays, géographie physique, géographie rurale, mais aussi géopolitique, une étude de son histoire avec les rebondissements les plus récents, une étude du découpage administratif qui nous donne donc à connaître ce grand pays qui abrite tout de même, nous le savons, le siège de l'Union africaine et qui est en quelque sorte la patrie de tous les Africains. Alors sur le plan géographique, comment se représenter ce pays ? Vous parlez de mosaïque, bon c'est l'Afrique des hautes terres, mais c'est des hautes terres, des basses terres. Est-ce que c'est l'opposition haut-bas, l'opposition centre-périphérie ?
On peut dire toutes les oppositions à la fois. Il y a l'opposition entre ces hautes terres qui représentent à peu près un tiers des plus d'un million de kilomètres carrés et qui regroupent les 4/5 des 80 millions d'Éthiopiens. Donc cela donne des densités de population qui la plupart du temps dépassent 150 habitants au kilomètre carré, avec naturellement des territoires au sud d'Addis Abeba où il y a 400, 500, 600 habitants par kilomètre carré. Et ce n'est pas d'ailleurs dans ces parties au sud d'Addis Abeba qu'il y a eu les disettes et les famines, hélas bien connues. Donc il y a cette opposition entre haute et basse terre, il y a l'opposition entre le nord et le sud, la charnière étant Addis Abeba. On a parlé de Ménélique, il a eu une préscience d'une certaine façon géopolitique remarquable, puisqu'il a construit cette ville, même si c'est peut-être son épouse qui lui a donné son nom, entre les hautes terres du nord, le cœur traditionnel de l'Éthiopie, et puis les hautes terres du sud et les basses terres, qu'il a conquis dans son règne qui va de 1889 à 1913. Alors il y a une opposition aussi qui est ancienne, qui est l'opposition entre un État chrétien, et puis des périphéries musulmanes, mais aussi un islam extrêmement ancien qui remonte au 7e siècle. Dans le Coran, l'Éthiopie est mentionnée et les compagnons du prophète ont trouvé refuge en Éthiopie. Donc il y a des relations très particulières entre le christianisme éthiopien et l'islam éthiopien.
Et en même temps, entre le christianisme éthiopien et les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on a, bon, pour dire les choses un petit peu rapides, on a un judéo-christianisme.
Puisque Ménélik II, dont nous parlions tout à l'heure, il est le deuxième du nom, le premier ayant été, disons pour faire vite, le fils de Salomon et de la reine de Saba.
Et oui, et là, il y a eu un choix extraordinaire. Au fond, il a décidé de donner corps à un mythe fondateur qui fait de l'Éthiopie à la fois l'héritier d'Israël et puis en même temps un Israël qui a accepté la révélation chrétienne. Et donc, naturellement, avec des mentions dans la Bible, hein. Et puis aussi des mentions dans le Coran. C'est ce qui fait la force, effectivement, de ce mythe fondateur.
Alors, les jeunes Éthiopiens de ces années de Ménélik II et d'après Ménélik II vont donc apprendre à l'école le mythe salomonien. Et donc, c'est ça qui est un peu le cœur de l'identité nationale.
Oui, c'est extrêmement intéressant. Bon, d'abord, quand on va à Addis Abeba, on est assailli dans la rue par des types qui viennent vous vendre des peintures représentant le voyage de la reine de Saba. Il est dans les innombrables églises que le pays possède. Il est naturellement enseigné par l'église, et la moitié des 80 millions d'Éthiopiens sont chrétiens. Et puis, c'est aussi un mythe qui est, comme tous les mythes fondateurs, qui explique un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce qu'il y a dans cette partie de l'Afrique des populations qui parlent des langues sémitiques, qui sont très proches des langues sémitiques parlées au Moyen-Orient? Donc les Éthiopiens, ils savent qu'ils sont différents des autres Africains, ne serait-ce parce qu'il y a, de l'autre côté de la mer Rouge, des civilisations extrêmement proches.
Alain Gascon, Ménélik II, comment organise-t-il ce territoire dont il a considérablement agrandi la superficie et où il y a ces poches, ces vallées, ces montagnes? Est-ce qu'il centralise
Alors, c'était un conquérant féroce. Et on pourrait dire qu'il y a un adage que nous connaissons tous, la guerre nourrit la guerre. C'est un adage que les Éthiopiens ont pratiqué d'une façon remarquable. Mais en même temps, il a su aussi, dans ses territoires conquis, sélectionner un certain nombre de chefs locaux auxquels il n'a pas hésité à donner des responsabilités extrêmement importantes et les faire venir à sa cour. Et donc ça a été aussi le moyen de limiter la puissance des chefs traditionnels du Nord, dont certains avaient aussi une filiation salomonienne et qui auraient pu, disons...
être des rivaux pour
voilà.
Lui.
Et puis Ménélik aussi a pratiqué une réelle politique, bon, disons-le de façon très claire. Alors qu'il était roi du Shoah, et donc il devait en principe obéir à Johannes IV, qu'il avait reconnu comme étant roi des rois, il n'a pas hésité, dans son dos, disons, à signer un traité avec les Italiens, Italiens que combattait Johannes. Alors naturellement, lorsqu'il est devenu roi des rois, il a très rapidement changé son fusil d'épaule. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la politique quotidienne des Éthiopiens, encore maintenant. L'Éthiopie est remarquable, disons les diplomates éthiopiens, pour une navigation à courte vue, ou plutôt à longue vue, mais en même temps en changeant très facilement. Quand le jeu en vaut la chandelle, il y a cette absence de scrupules.
Alain Gascon, dans cette longue histoire de l'Éthiopie, il va y avoir évidemment des moments d'accélération. En histoire, accélération, on dit révolution. Alors tout le monde pense d'abord à la révolution rouge qui amène les communistes au pouvoir. Mais pour vous, ce n'est pas la seule révolution que l'Éthiopie a connue.
Oui, je crois qu'il faut parler des révolutions éthiopiennes au pluriel. D'une certaine façon, Ménélik était un révolutionnaire. Le fait d'avoir comme cela agrandi d'une façon extraordinaire ses états, avoir bouleversé aussi la société éthiopienne, avoir fait émerger des individus qui étaient quand même des esclaves. Hein. Des esclaves sont devenus des généraux, des eunuques, sont devenus des ministres. Alors évidemment, ça c'était une première révolution. Il y a eu naturellement la révolution démographique. Et c'est là je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et là, les Éthiopiens, je pense, notamment Haïlé Selassie, et même, disons, ses compétiteurs, ceux qui l'ont renversé, n'ont pas très bien compris. à Haïlé Sélassié, à chaque fois qu'il y a eu une crise, parce que l'histoire de l'Éthiopie, en dehors naturellement de la splendeur, des ors, des manifestations, on sait qu'il y a eu, de 1930 à 1974, assez régulièrement des tentatives de coup d'État, etc. On ne sait pas très bien alors si Haïlé Sélassié ne les provoquait pas pour mieux pouvoir les déjouer. Enfin bon, mais il y a eu le coup d'État de 1960 qui a quand même failli réussir, mais à chaque fois... Au fond, le remède, c'était très simple. On octroyait des droits sur la terre à des militaires ou à des fonctionnaires dans les terres du Sud, parce que ce réservoir de terres du Sud, c'était plus de la moitié du pays. Les paysans n'ont pas été expulsés, mais ils sont devenus, ipso facto, tenanciers précaires. Alors, il suffisait d'arriver quelque part en ayant un papier qui prouvait que vous aviez, vous, les droits, vous pouviez expulser à peu près n'importe qui. Et ça, effectivement... Haïlé Sélassié n'a pas arrêté de pratiquer ses donations de terre.
Ce qui lui a permis de calmer
les impatiences. Mais au bout d'un certain moment, il n'y avait plus assez de terre. Et puis, la population du Sud a commencé à trouver difficile de se faire dépouiller comme cela. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'Éthiopiens qui ont commencé aussi, notamment de ces régions du Sud, à trouver que tous les Éthiopiens étaient égaux, mais il y en avait certains qui étaient beaucoup plus égaux que d'autres. Et ça, ça posait problème. Et il y a aussi, quand on lit les mémoires de quelqu'un qui est extrêmement intéressant, qui était le major Dawit, qui était responsable de la AAC, c'est-à-dire l'organisme de réhabilitation et de lutte contre la sécheresse, qui avait été mis en place à la fin du règne de Haïlé Sélassié et qui a été continué par le régime militaire, par le régime de Mengistu. Et Mengistu y a nommé un de ses amis, le major Dawit. Le major Dawit écrit dans ses mémoires, on est en 1984, on a trouvé 42 millions d'habitants en Éthiopie, y compris l'Érythrée. On en a 36. C'est l'année où il y a eu la grande famine. Il dit, mais l'Éthiopie pourrait nourrir au moins 4 fois la population qu'elle porte. Dès ce moment, il y avait déjà des territoires où il y avait 200, 300 habitants par kilomètre carré. Et il y a des phénomènes de saturation. Et là, effectivement, il n'y a pas eu cette prise de conscience. Et pourtant, le major Dawit était géographe. Donc il aurait peut-être dû... Mais il y a aussi, si vous voulez, cette confiance quand même, que l'Éthiopie, quand même, une terre sainte, une terre donnée par Dieu à un peuple élu. Et donc, finalement, s'il y a une famine, ça veut dire qu'on n'a pas été fidèle à Dieu, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des phénomènes de saturation ou de pression démographique trop importante sur des terres mises en valeur depuis 2 ou 3 millénaires. Là, il y a quelque chose qui n'a pas été bien compris. Et c'est intéressant de voir que le vieux négus et le jeune militaire, finalement, ont à peu près le même réflexe.
Alain Gascon, ce jeune militaire qui fait la révolution, qui renverse l'Empire, qui proclame une république, qui adopte le marxisme, qui fait la réforme agraire, etc., etc. Vous expliquez en suivant certains de vos collègues, que comme certains l'analysent à propos de la révolution française, la révolution n'a pas été une rupture totale par rapport à l'ancien régime, et qu'elle a, d'une certaine manière, prolongé certains aspects de l'ancien régime. Vous dites qu'en Éthiopie, il s'est passé la même chose. Alors, sur quel plan ? La nation, l'État ?
Oui. La guerre italo-éthiopienne a été un grand moment de communion nationale. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué le pays, les patriotes. On peut faire des rapprochements avec aussi ce qu'a été la résistance française, avec aussi des mouvements de va-et-vient entre les deux pôles. Et là, il y a un mouvement qui s'est déclenché. Et d'une certaine façon, lorsqu'Haïlé Sélassié a été détrôné, on lui a reproché de ne pas avoir été patriote, de ne pas s'être soucié de l'ensemble des Éthiopiens, d'avoir mis de l'argent de côté à l'étranger et d'avoir, donné une part trop importante aux étrangers dans l'administration et dans le gouvernement, et notamment aux États-Unis. Mais ça, si vous voulez, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose aussi qui est la centralisation. La centralisation, elle commence véritablement en 1941, lorsqu'Haïlé Sélassié rentre dans un territoire où il y a un réseau routier centré sur Addis Abeba, le téléphone, des bâtiments qui ont été construits, des bâtiments urbains. Les Italiens ont déblayé le terrain, ils ont vraiment pratiqué une politique de terre brûlée, notamment vis-à-vis des élites locales. Et donc là, il peut lancer son mouvement de centralisation. Il le lance avec une certaine prudence, Et en même temps, il le lance aussi par le biais de l'Église. C'est extrêmement intéressant aussi. Et là, il y a ce renforcement, cette emprise territoriale Il y a une administration, il y a une armée. Une administration, une armée qui sont salariés et qui sont payés régulièrement. Hein, ça, c'est quand même très très important. Même pendant la Révolution, bon, ils sont mal payés, mais payés régulièrement. Hein, ça, c'est important. Et puis, il y a aussi la montée de l'utilisation de la langue nationale, l'amharique, qui devient la langue des villes, c'est la langue de l'enseignement, c'est la langue des médias. Haïlé Selassie, en décembre 1944, permet aux missions de s'installer, protestantes et catholiques, à la seule condition qu'ils enseignent dans leurs écoles l'amharique. Il y a là quelque chose qui s'est amorcé sous Haïlé Selassie et qui continue pendant la Révolution, dans la mesure où la politique linguistique de Mengistu est directement inspirée du rapport de Staline sur les nationalités que Lénine avait commandées. Il a été traduit en amharique. Alors, les autres langues sont enseignées, sont reconnues, l'égalité des peuples, mais il y a une langue qui est un petit peu plus égale que les autres, c'est naturellement l'amharique. Et là, il y a une continuité absolument manifeste. Et la dernière continuité aussi, c'est que finalement, comment dirais-je, le pouvoir passe au sud. La base économique et la base du pouvoir passe au sud, le nord étant marqué par les famines, par la guerre civile, beaucoup plus que le sud.
Alors justement, Alain Gascon, pour finir, aujourd'hui, l'Éthiopie est une république fédérale démocratique. Est-ce que c'est une fiction ou est-ce que cela renvoie à un calcul pour éviter le face-à-face entre Amara et Oromo, ou est-ce que ça correspond véritablement à la reconnaissance, enfin, des nationalités comme étant égales entre elles et ayant même le droit, si elles le veulent, de faire sécession?
Il y a ce droit à la sécession qui est reconnu. Ça a été un scandale en Éthiopie, hein, et une grande partie de l'opinion a été vraiment choquée, d'autant que c'était une proclamation juste après que l'Érythrée ait pris son indépendance. Et donc, on y a vu, chez les opposants, la preuve d'une collusion entre les Érythréens et le régime de Meles Zenawi. Bien. Alors, ce découpage fédéral, il est dit ethnique, en réalité, il est linguistique. Avec, dans la pratique, une décentralisation extrêmement poussée. Chaque État à un parlement, une administration, un gouvernement, des droits extrêmement importants, notamment dans le domaine culturel. Les langues régionales deviennent des langues officielles, mais il reste naturellement des situations qui sont très différentes suivant qu'on passe au nord ou au sud. Au nord, dans les vieilles provinces, il n'y a pas trop de difficultés. Le Tigray, on parle tigrinya, les frontières sont connues depuis des siècles. Mais il y a un gros problème, c'est la région sud. La région sud, c'est 20% de la population d'Éthiopie, plus de 10% de la superficie, et avec une trentaine de langues, nations et nationalités, suivant l'appellation officielle. Et puis, il y a deux choses quand même. Il n'est absolument impossible de trouver une carte officielle des délimitations des différentes régions en Éthiopie. On continue à vendre des cartes de la situation d'avant 1991. C'est quand même très très intéressant. Et la deuxième chose, c'est que ces frontières, en définitive, sont assez fluides. Et il suffit d'une consultation populaire pour qu'on obtienne de modifier les frontières. Et d'une certaine façon, il faut bien le dire que dans la vie courante, ça évite des affrontements sanglants que le pays a bien connus. Et il y a aussi, quand on parle un petit peu avec les Éthiopiens, il y a deux choses qui sont dites. Bon, premièrement, ils disent, mais au fond, ce que le gouvernement actuel fait, c'est ce que les Italiens voulaient faire. Et naturellement, c'est pas très laudatif par rapport au gouvernement. Mais, au fond, c'est sans doute mieux, cette situation-là, parce que ça nous évite de tomber dans les ornières où sont actuellement les Somalis. Et puis, une des grandes fautes de Mengistu, ça a été le fait, entre son pouvoir lui-même, qui était un pouvoir absolu, et puis le paysan de base, ou l'éleveur de base, il n'y avait plus personne. Parce que traditionnellement, il y avait naturellement des chefs locaux. Alors ces chefs locaux, ils étaient très durs. Mais dans la mesure, ils savaient faire remonter un certain nombre de choses. Ils faisaient écran. Alors là, évidemment, les structures fédérales font écran.
De rétablir.
Et voilà. On aime bien le pouvoir, mais on préfère qu'il y ait des écrans entre le pouvoir et soi-même.
Merci à vous, Alain Gascon, d'être venu à nos micros. Voilà donc une Éthiopie en dehors des mythes que l'on a souvent. Ce pays qui abrite la capitale de l'Afrique semble avoir une histoire qui l'éloigne de beaucoup d'États africains. Peut-être d'ailleurs pourrait-elle servir un jour d'exemple à d'autres États africains qui sont confrontés au même type de problème. L'équipe de mémoire vous retrouvera dans une prochaine émission avec Isabelle Godino, Thomas Ferrière et Likia Mbokolo. Amen.